aimerais accueillir maintenant Éric Dubreuil. Je ne sais pas où il est. Éric Dubreuil, qui est mandataire judiciaire. Oui, bonjour. Donc, depuis 2015, vous êtes conseil pour des familles qui s'occupent de personnes qui sont en perte d'autonomie ou en situation de handicap et qui souhaitent préserver les intérêts de leurs proches, qui sont donc fragilisés par soit la maladie, soit la perte d'autonomie. Des familles qui sont dans le désarroi, hein, et qui auront peut-être recours à une tutelle ou une curatelle. Alors, on a tous entendu parler de ces mots. On a tous dans notre souvenir les articles ou les polémiques autour de Madame Bettencourt. Mais au fond, qu'est-ce que ça représente ces mots? On ne connaît pas très très bien leur définition. Donc vous allez nous éclairer sur ces procédures qui conduisent à la protection des majeurs fragilisés par la perte d'autonomie.
Merci, merci à tous. Donc je suis consultant auprès du groupe Audience et je participe aux ateliers comme ceux de la Fondation Alzheimer, bien sûr. Et pour le groupe Audience, j'interviens comme consultant sur des questions portant sur la protection des majeurs. Alors la protection des majeurs, on a tout de suite l'impression de quelque chose de bienveillant. Protéger un majeur, on se dit que c'est pour son bien, bien évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut le protéger? Parce que toute l'après-midi, on l'a compris, la maladie, le handicap, l'accident, le grand âge font que certaines personnes perdent leur capacité et ne sont plus en mesure de prendre soin seules de leur intérêt. Alors, je disais que c'était un langage bienveillant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si on regarde très très rapidement l'historique des lois qui ont traité de la protection des majeurs, il y a un moment donné où les mots étaient beaucoup plus radicaux. Je ne sais plus, tout à l'heure, dans une intervention, quelqu'un a dit on ne veut pas employer le mot « démence ». Mais si on retourne sur les trois lois anciennes, la première, c'est le Code Napoléon, en 1804, et le Code Napoléon, pour parler des gens qui avaient des faiblesses, il n'y allait pas par quatre chemins. Et il écrivait « Le majeur, qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. » Donc là, c'était clair et net, il y a deux siècles, quand il y a quelqu'un qui est dans une faiblesse, dans l'imbécilité, on l'interdit. Et donc l'interdit, c'était donc quoi? C'était faire en sorte que cette personne ne puisse plus gérer son patrimoine. Au XIXe siècle, l'idée numéro un, c'était de s'occuper des biens, du patrimoine, de la fortune. Et donc, l'imbécile, on lui interdisait de s'occuper de ses affaires et des affaires de sa fortune. Alors, les choses ont un peu évolué. La deuxième loi, après 1804, c'est 1968, donc un siècle et demi plus tard. Et là, on arrive à des présentations beaucoup plus modernes de la situation. Et le texte dit « est protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ». Donc là, on est dans une définition technique. Mais quand même, le législateur, il ajoute un deuxième paragraphe « peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, par son intempérance, ou par son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». Donc il y a à nouveau le retour un petit peu de, c'est plus l'imbécilité, mais un petit peu de la morale. Voilà, celui qui par intempérance ou oisiveté mettrait en jeu également son patrimoine, il faut également le protéger. C'était 1968. Mais 1968 avait déjà un intérêt, c'était de mettre en place une double présentation des choses. Il faut protéger une personne, et il faut protéger ses biens. Et il faut le protéger d'une manière qui soit la tutelle, la représentation du majeur, soit la curatelle, où là, simplement, on l'accompagne et on le protège. Donc, c'était les deux situations différentes. Et puis, j'en termine avec les citations, c'est fini, juridiques. On arrive à la dernière loi, 2007, donc il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et là, je suis désolé, il y a deux phrases à citer. On arrive au corps du texte. « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. Donc là, tout à coup, les éléments interviennent d'une façon très précise. Altération de ses facultés médicalement constatée. Et ça, c'est le sine qua non de la loi depuis 10 ans. Rien ne sera fait sans un certificat médical initial. Et ensuite, il pourra y avoir une protection selon la nécessité, selon l'importance de l'altération et selon les dispositions de la personne. Alors, je vais maintenant passer en revue, c'est un peu schématique, c'est un peu froid, mais je vais passer en revue ce qu'on appelle les instruments de la protection et on les évoquera les uns après les autres. Donc, vous l'avez compris, il y a donc la sauvegarde de justice, qui est une première mesure. Ensuite, vous avez la curatelle, deuxième mesure. Et ensuite, vous avez la tutelle. Ce sont les 3 éléments importants mis en place par la loi. D'abord, avant de les évoquer l'une après l'autre, qu'est-ce que ça signifie, une protection d'un majeur ? Ça signifie déjà une affaire et une histoire personnelle, l'histoire d'une personne. Toute l'après-midi, on a parlé de cas individuels. Le début d'une protection, c'est un cas, c'est une histoire individuelle. Et cette histoire individuelle, elle conduit quelqu'un à demander la protection d'une personne. Donc il faudra, au départ, comme on est devant la loi, il faudra la rédaction d'une requête. Une requête à qui ? Une requête au juge des tutelles, demandant la protection d'Éric Dubreuil. Premier élément, une requête écrite dans laquelle on décrira l'histoire d'Éric Dubreuil, les événements récents de sa vie, sa situation, ses exagérations, enfin bref, tout ce qui justifie une demande de mise sous protection. Et à cette requête écrite, il faudra joindre le certificat médical initial. Pas n'importe quel certificat initial. Le certificat établi par un médecin dont le nom figure sur une liste disponible auprès de chaque tribunal des tutelles. Donc partout en France, là où il y a un juge d'instance, il y a un juge des tutelles, il y a un greffe du tribunal des tutelles et vous trouverez la liste des médecins compétents pour ce certificat médical initial. Une requête, un certificat médical initial. Quand ces deux documents sont ensemble, ils sont présentés au greffe du tribunal des tutelles. Le greffier prend les deux documents, les transmet au juge et le juge va instruire le dossier. Alors la grande novation depuis 2007 également, c'est qu'il y a beaucoup plus d'auditions des personnes autour du tribunal. Le juge va convoquer un certain nombre de gens pour prendre en connaissance de son dossier et pour déterminer effectivement quel sera son jugement. Il aura la possibilité de convoquer bien sûr le majeur lui-même, si on peut le convoquer, et s'il accepte d'être convoqué et d'être entendu, des membres de sa famille, des membres de son entourage, des voisins, que sais-je encore. Le juge pourra prendre connaissance du dossier individuel auquel il y fait référence. Et puis, bien entendu, il ira dans le dossier médical, selon un schéma extrêmement précis, quelle est l'analyse du médecin sur la situation d'Éric Dubreuil, son évolution possible, comment ça peut tourner, etc., sa dangerosité, etc. Et il prendra sa décision. Alors, il prendra sa décision. C'est quoi les décisions qu'il peut prendre ? Première décision, c'est ne pas accepter de protection. Considérer qu'Éric Dubreuil est un gentil vieillard un peu lunatique, mais que, bon, il est un peu haut perché, mais qu'il n'y a aucune raison de le mettre sous protection de la justice. Et ensuite, il peut au contraire prendre une des mesures dont on a parlé tout à l'heure. La sauvegarde de justice, j'en parle très rapidement, c'est une mesure temporaire. Vous la connaissez sans doute parce qu'on appelle ça souvent la mise sous sauvegarde de justice pour raison médicale. Vous savez, quelquefois, quand quelqu'un est chez un psychiatre et qu'un psychiatre sent que voilà, on est face à un sujet particulièrement délicat, il peut demander au procureur de la République une mise sous sauvegarde immédiate parce qu'il faut absolument d'une façon immédiate, nécessaire, impérative, prendre cette décision de sauvegarde de justice. C'est temporaire, 1 an, maximum 2 ans. Alors ensuite, selon le degré d'atteinte du majeur, il peut décider qu'il faut accompagner ce majeur dans sa vie quotidienne. L'accompagner, c'est-à-dire qu'il y a des actes pour lesquels le majeur pourra prendre sa décision lui-même, mais il faudra qu'à côté signe le curateur. Et puis il y a d'autres actes pour lesquels il est tout à fait libre, d'exercer entièrement ses capacités. Alors, il y a malheureusement déjà 2 choses différentes, la curatelle simple et la curatelle renforcée. Alors, il faut l'accompagner, le majeur, curatelle simple, voilà, il a quand même, par exemple, ses moyens de paiement, il a quand même ses capacités, il faudra quand même l'accompagner dans la curatelle simple pour des actes importants, des actes de disposition, des actes de vente. Donc là, il faudra effectivement que le curateur soit à côté de lui. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais encore une fois, c'est de l'accompagnement et de la protection. Et puis, il y a d'autres cas dans lesquels le juge prononcera au contraire la curatelle renforcée. Donc, il considère qu'effectivement, le majeur a encore ses capacités de façon satisfaisante, mais, curatelle renforcée, le juge donne au curateur la mainmise totale sur les revenus et sur les dépenses du majeur. Donc, vous comprenez que si 100% des revenus retraite, allocation, fermage, enfin tout ce que vous voulez, et 100% des dépenses du majeur sont entre les mains du curateur, vous comprenez qu'on est un peu quand même les mains dans le dos au point de vue gestion de sa vie quotidienne. Mais il n'empêche qu'on laisse une grande latitude au majeur. Et puis le juge peut au contraire considérer, enfin le juge et les éléments médicaux peuvent au contraire militer pour ce qui est une, non plus un accompagnement, mais une représentation du majeur. Le majeur perd sa capacité d'exercice de ses droits. Il va être dans l'exercice de ses droits représenté par une tierce personne, et cette tierce personne sera le tuteur. Et donc là, vous voyez que ce qui reste comme élément d'intervention dans sa vie personnelle au majeur protégé est extrêmement réduit. La majorité des actes sont des actes qui seront faits par le tuteur, bien évidemment sous le contrôle du juge, tout ça. Hein, de temps en temps, il y a des actes que le tuteur ne pourra jamais exercer seul, même en curatelle. Il y a des actes auxquels il faudra toujours demander l'autorisation du juge. Donc voilà les outils, la sauvegarde, la curatelle simple, la curatelle renforcée et la tutelle. Et puis, un mot quand même pour expliquer comment tout ça se passe dans la vie pratique. Le juge a eu connaissance du dossier, il s'est forgé une opinion, il a entendu les parties et il prend sa décision. Alors, à qui est-ce qu'il va confier le volant? Il décide d'une curatelle renforcée. Qu'est-ce qu'il a comme possibilité? Ben, il a bien sûr la possibilité de nommer comme curateur, par exemple, un membre de la famille. Par priorité, la loi donne le premier rang aux membres de la famille. Alors, si c'est le cas, parfait. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de famille, ou parce que les familles démontrent une certaine rivalité, ou est-ce que la fratrie n'est pas franchement dans une grande harmonie, le juge peut considérer que ce n'est pas une bonne idée que de confier la curatelle à un membre de la famille et de s'adresser à une tierce personne. Ça va être qui? Ça va être un mandataire judiciaire à la protection des personnes, ou ça va être une association tutélaire? Donc, l'association tutélaire a des salariés qui ont suivi les mêmes études qu'un mandataire judiciaire, donc qui ont un diplôme de mandataire judiciaire, mais qui sont salariés d'une association et à qui on va confier un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, 10 dossiers, et donc qui vont être en charge de personnes qui sont protégées, mais qui ne sont pas, encore une fois, membres de la famille, ni les membres d'une association, ni les mandataires judiciaires. Donc, voilà les personnes qui seront en jeu. Le majeur protégé, le juge, le curateur et le tuteur. Voilà les protagonistes. Alors, après, on a parlé de 2 choses extrêmement importantes. La première, c'est l'habilitation familiale. Alors, l'habilitation familiale, c'est une protection judiciaire. Ça va se passer devant un juge. Il va y avoir une requête. Elle sera déposée, une requête en habilitation familiale qui sera déposée au greffe. Il y aura un examen médical avec l'ordonnance qui l'accompagnera. Mais il y a deux conditions essentielles. Il faut que dans l'habilitation familiale, tous les membres du premier cercle du majeur soient d'accord sur deux points. Premier accord, toute la famille est d'accord pour dire qu'il faut protéger Éric Dubreuil. On est tous d'accord, il a besoin de protection. Et deuxième accord, on est tous d'accord pour qu'Éric Dubreuil soit protégé, et ce sera Bernard Dubreuil qui sera la personne chargée de cette protection. Donc la famille fait montre devant le juge d'une quasi-unanimité, en tout cas il n'y a pas d'opposition, pour que, un, Éric Dubreuil soit protégé, et deux, que la protection soit faite par un des membres de la famille. Donc le juge, il a un travail facilité. Il voit qu'il a une famille unie. Il voit que dans cette famille, il y a une certaine cohésion pour dire qu'il faut protéger ce gentil grand-père. Et deuxièmement, un membre de la famille va s'en charger. Donc, il va prononcer, en fonction du cas de figure d'Éric Dubreuil, en fonction du certificat médical, il va prononcer une habilitation familiale, soit partielle, soit totale. Donc, il va donner à Bernard Dubreuil, il va lui donner soit des pouvoirs de curateur, soit des pouvoirs de tuteur, de façon à s'occuper de la personne, mais d'une façon beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, beaucoup moins contraignante que dans la tutelle et la curatelle. Il n'y aura pas de compte à rendre chaque année, il n'y aura pas de comptabilité à tenir. La mesure sera prise pour 10 ans et non pas pour 5 ans. Bref, en d'autres termes, le juge laisse une grande capacité aux familles pour exercer cette habilitation familiale, sachant, j'insiste là-dessus, que le juge a eu la démonstration d'une cohésion familiale pour prendre en charge ce majeur. Et enfin, dernier mot, pour ne pas être trop long non plus, je vais parler d'un autre élément qui s'appelle le mandat de protection future, qui est une chose qui n'est pas du tout une mesure judiciaire, qui est un contrat de droit privé. Donc le mandat de protection future, il a été créé pour faire quoi ? Il a été créé pour donner la capacité à une personne qui est en pleine forme, qui est en pleine possession de ses moyens, comme on dit, de décider à l'avance, le jour où médicalement les choses ne se passeraient pas très bien, de décider à l'avance qui s'occupera de lui. Donc là, pour l'instant, je suis encore assez vaillant, tout va bien, et je me dis, ben, le jour où ça ne va pas très bien, j'aimerais pas que ce soit un tel ou bidule ou un étranger qui s'occupe de moi. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un que je connaisse, que j'ai convaincu de prendre en charge mes affaires et qu'on se mette d'accord à l'avance sur qu'est-ce que j'attends de lui. Donc, c'est un accord à trois. Le mandant, donc moi-même, mon mandataire, mon ami ou un membre de ma famille qui a accepté ce rôle, et le notaire, parce qu'il faut aller devant, quand même, c'est mieux de faire un acte notarié. Et alors, devant le notaire, voilà, j'explique que le jour où ça n'ira pas bien, eh bien, c'est un tel, mon petit-neveu, qui s'occupera de mes affaires et de ma personne. Et donc, je peux écrire tout ce que je veux. Je peux écrire qu'il faut qu'il s'occupe également de mon petit chat. Il faut qu'il fasse en sorte que chaque année à Pâques, j'aille passer le week-end au Sable d'Olonne et que dans ma vie quotidienne, j'aille chez le coiffeur toutes les 3 semaines. Enfin, j'écris absolument tout ce que je veux. Et également sur ma gestion de ma fortune, ou de mes biens, ou de mes revenus. Je veux pouvoir bénéficier de l'abonnement à je ne sais pas quelle chaîne de télévision. Vous écrivez ce que vous voulez. Vous voulez organiser la gestion de vos affaires et de votre personne le jour où vous ne serez plus en capacité de le faire. Vous mettez tout ça noir sur blanc. Voilà, on signe en bas, mandant, mandataire, notaire, on met ça dans une enveloppe, on met l'enveloppe dans le tiroir et chacun retourne à ses affaires. Et puis un jour, je ne vais pas très bien. Je commence à... Voilà. Donc, je passe un examen médical. Et le médecin conclut effectivement au fait que mes capacités sont en... Donc mon mandataire prend le certificat médical qui a été rédigé, demande au notaire de ressortir l'enveloppe du mandat qu'on a signé quelques années auparavant, il prend les deux, il va voir les juges simplement pour qu'il y ait un visa. C'est-à-dire qu'il y a d'une part le mandat, d'autre part il y a le certificat médical qui dit que voilà, j'ai un peu lâché la main. Et à ce moment-là, c'est mon mandataire qui prend le volant. Donc vous avez là en place un instrument juridique de droit privé qui vous permet de choisir à l'avance quelle sera la conduite de votre personne et de vos affaires le jour où vous êtes en vraie défaillance physique ou mentale. Voilà, c'était un petit peu le panorama très rapide de ce sujet. Vous avez bien compris, vous le savez tous, que c'est un sujet éminemment sensible pour nous tous et pour les familles de malades. Il voulait simplement vous donner quelques éléments sur les aspects juridiques de l'opération.
Merci beaucoup, Monsieur Dubreuil, pour toutes ces explications. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, madame. On va prendre deux ou trois questions. On est vraiment en retard sur le déroulé.
Juste rapidement, je voulais savoir si l'habilitation entre époux, c'est la même chose que l'habilitation familiale, mais du coup confiée au conjoint.
Si l'habilitation première ?
Entre époux. Ça existe l'habilitation entre époux, non ?
Je suis désolé, là j'entends pas. L'habilitation ?
Entre époux, conjoint.
Ah non, pardon. Là on parle, non. Vous avez raison. Quand on a dit tout à l'heure que le juge devait décider d'une protection en fonction des éléments, par exemple, de la vie de la personne protégée, il peut très bien dire qu'il n'y a pas besoin d'une protection parce qu'entre mari et femme, il y a déjà des possibilités tout à fait définies par le Code civil de faire prendre en charge par un époux ce qui devrait être pris en charge par les deux, mais en cas d'incapacité de l'autre époux. Non, l'habilitation entre époux, c'est des règles tout à fait bien connues du droit civil, ça n'a rien à voir avec l'habilitation familiale.
Mais c'est quand même décidé par le juge des tutelles ?
Alors, l'habilitation entre époux, je prends mes lunettes 10 secondes parce que ça ira plus vite. Voilà, c'est l'article 217, je ne le connais pas par cœur, excusez-moi. Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. Donc ça, c'est une chose qui est prévue par le Code civil, qui effectivement est demandée à un juge, mais ce n'est pas... Ce n'est pas réellement l'habilitation familiale telle que je l'ai décrite tout à l'heure, qui est une habilitation qui sera générale. Là, si vous voulez, c'est dans l'hypothèse où un des époux est momentanément dans l'incapacité de prendre position, et je ne sais pas, il faut décider de la vente d'un immeuble, et il y en a un qui est, je sais pas, un qui est dans le coma, donc il faut absolument prendre position pour l'autre. L'habilitation familiale, c'est un cadre très général. Dans la représentation des époux entre eux, c'est souvent épisodique, hein, c'est pour un événement.
Une autre question ?
Je crois que c'était un vrai parcours du combattant. Ce que vous avez dit, c'est tout à fait exact, bien sûr. Mais pour l'expérience vécue, j'ai pu constater que c'est un vrai parcours du combattant, cette affaire de protection, gêne de protection, qu'elle soit tutelle, qu'elle soit curatelle, simple, renforcée, c'est une galère.
C'est un qualificatif que je vous
laisse. Peut-être un peu fort de ma part.
Que je vous laisse, oui, tout à fait. Mais c'est une galère. Alors, on parlait tout à l'heure de chiffres et j'allais dire galère pour galère. Non, je parle sérieusement. On parlait de 900 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, absolument.
À peu près.
Et je me faisais la réflexion, 900 000 malades d'Alzheimer en France, et croyez bien, je ne veux pas du tout croiser les chemins, hein. Il y a 800 000 protections, il y a 800 000 majeurs protégés en France. Donc je ne veux pas dire du tout que tous les malades d'Alzheimer sont des futurs protégés, mais on est quand même dans des très grands chiffres. Donc je vois tout le travail qui est fait sur la recherche sur Alzheimer, et ça mérite, hein, 900 000 malades. Je comprends qu'il y ait autant d'intérêt, autant de passion pour trouver des solutions. Mais 800 000 majeurs protégés, c'est la galère, mais il faut quand même s'en occuper. Il faut quand même que tout ça fonctionne un petit peu. Alors, quand on, je pense que vous faites partie des familles de majeurs protégés.
J'ai eu
extrêmement difficile. Ça a été extrêmement difficile d'obtenir que le juge tranche et décide. Il prend son temps sur tous les sujets, le temps qu'il veut.
Alors, il y a un élément, monsieur, il y a un élément, pardon, je vous ai coupé la parole. Il y a un élément qu'il ne faut pas, il faut pas perdre de vue. On est dans un domaine législatif. On est dans un domaine où on applique, c'est comme ça dans notre société, si on limite les capacités d'Éric Dubreuil, il faut que ce soit quand même avec certains contrôles. Donc ça se passe devant un juge qui va prendre une décision. Et ce que les familles ont souvent beaucoup de mal à comprendre, c'est que à partir du moment où un juge a nommé dans un dossier un tuteur, le tuteur est le seul maître à bord devant le juge. Et c'est épouvantable pour les familles qui ne sont pas partie prenante aux décisions. Il n'y a pas de décision collective, c'est le tuteur qui décide. Et il n'a de rendre à compte, de compte qu'à une seule personne, c'est au juge. Et donc les gens se sentent, peut-être c'est votre cas, peut-être c'est mon cas, les gens se sentent totalement dépossédés d'un proche. C'est quelquefois un grief, bien entendu, que j'entends et qu'on entend souvent.
Est-ce que le mandat de protection future dont vous nous avez parlé à la fin est tout aussi solide qu'une curatelle ou une tutelle dans la mesure où ça a été établi devant notaire? Est-ce que ça peut être contesté plus facilement?
Alors, c'est un contrat de droit privé auquel on donne une forme un petit peu solennelle parce qu'il vaut mieux, encore une fois, je le répète, le passer devant notaire et non pas sur un coin de table dans un café. Donc, c'est un contrat de droit privé. Pardonnez-moi et je vais essayer de vous répondre. Un contrat de droit privé, est-ce que c'est aussi solide? Ben, un contrat de droit privé, c'est le mariage. Est-ce que c'est solide? Ben oui, un mariage, c'est quand même un contrat relativement solide en droit français. Alors, à partir du moment où vous avez rédigé en pleine connaissance de cause et sans être du tout déjà sur la pente descendante, vous avez rédigé, d'ailleurs le notaire est là pour en témoigner, hein, vous avez rédigé, c'est pas un testament, hein, c'est pas vos dernières volontés, c'est comment on va s'occuper de vous quand vous quittez le volant. Je trouve que c'est la meilleure expression, hein. Alors, comment on va s'occuper de vous? Le testament, vos biens, comment ce sera dispersé, c'est autre chose. Ça peut être contesté. Oui, tout peut être contesté. Vous avez raison, ça peut être contesté. Vous avez des familles qui diront, oh, mais mon père, quand il a rédigé ça, il n'était pas bien. D'ailleurs, rappelez-vous, il a acheté 3-2 chevaux de suite. Enfin, c'est déjà la preuve que... On peut toujours contester, mais c'est un contrat sérieux dans lequel on prend le soin de décider comment on veut vivre.
Très bien. Merci beaucoup, Éric Dubreuil, d'avoir abordé ce sujet très délicat. Merci, on peut l'applaudir aussi.